Vous écoutez, on lit pour vous.
Boire moins? 4 trucs pour diminuer sa consommation d'alcool. Un texte de Rachel Aversa, paru le 4 avril 2023 dans le magazine Châtelaine. Deux psychiatres spécialistes de la dépendance nous donnent leurs conseils pour réduire notre consommation d'alcool. 2 verres par semaine, pas plus. Voilà la nouvelle limite de consommation d'alcool recommandée pour tous les adultes par le Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances, CCDUS. On est loin des 10 verres par semaine pour les femmes, 15 pour les hommes, qui constituaient la limite à respecter pour que les risques de problèmes de santé liés à l'alcool demeurent faibles. On parle ici de divers types de cancers, du côlon et du sein notamment, et de maladies cardiovasculaires. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Selon le CCDUS, une consommation de 2 verres ou moins par semaine expose la personne à un risque d'essai prématuré de 1 sur 1000, ce qui est considéré comme faible. La consommation de 3 à 6 verres d'alcool par semaine fait passer ce risque à un niveau modéré, soit 1 sur 100. Bref, plus on boit, plus le risque de conséquences négatives pour la santé augmente. Il va sans dire que, pour plusieurs, les nouvelles directives du CCDUS peuvent sembler hors de portée. Cependant, il faut garder en tête que toute réduction de la consommation d'alcool est bénéfique. Voici quelques bonnes astuces pour boire moins, offertes par 2 psychiatres spécialistes des dépendances. Bien connaître le volume d'un verre standard. Il est important de mesurer avec précision la quantité d'alcool que l'on consomme, dit la docteure Jennifer Brash, psychiatre en chef, spécialiste des dépendances à l'hôpital Saint-Joseph Healthcare Hamilton à Hamilton, en Ontario. Pour ce faire, on peut se fier au verseur de verre standard d'Éduc'alcool. La psychiatre y va de quelques conseils. La prochaine fois qu'on boit du vin à la maison, on en verse d'abord 142 ml dans une tasse à mesurer, puis on transfère le liquide dans un verre à vin pour voir à quel volume cela correspond. Plutôt à matrice de cocktail? On s'assure de mesurer son alcool à l'aide d'un verre à shooter. Et si on consomme ses cocktails dans un bar, on prend en note la quantité d'alcool contenue dans sa boisson. Préférez les activités qui n'impliquent pas la consommation d'alcool. Bien que cela puisse sembler évident, on choisit souvent par défaut d'aller prendre un verre lorsqu'on se cherche une activité sociale. La démarche visant à modifier cette routine peut sembler élémentaire, mais elle est essentielle. Pourquoi ne pas aller marcher, boire un thé aux perles ou voir un bon film? On prévoit des activités où l'alcool ne joue pas un rôle central, résume la docteure Josée Lynch, psychiatre spécialiste des dépendances au Centre de santé mentale du Réseau universitaire de santé de Toronto. Avoir avec soi des boissons non alcoolisées. Il en existe des excellentes, jurées. Une multitude de bières, de cocktails et de vins non alcoolisés ont fait leur apparition sur les rayons. Récemment. Et ils sont délicieux. Certaines bières sans alcool ressemblent à s'y méprendre à leur cousine à 5% d'alcool. Si vous les apportez à une soirée pour votre propre consommation, les gens n'y verront que du feu, commente la docteure Brash. Procédez une étape à la fois. Toute réduction de sa consommation d'alcool est un pas dans la bonne direction lorsqu'il s'agit de limiter les risques, explique la docteure Lynch. La docteure Brash est du même avis et conseille d'essayer de réduire sa consommation hebdomadaire un verre à la fois. La réduction des risques, c'est d'abord la réduction, dit-elle. Quand on prend 10 consommations par semaine, passer de 10 à 2 peut sembler impossible. On peut commencer par passer de 10 à 9 verres, et une fois que c'est devenu moins difficile, on passe de 9 à 8. C'était « Boire moins, Quatre trucs pour diminuer sa consommation d'alcool, un texte de Rachel Averza, paru le 4 avril 2023 dans le magazine Châtelaine.
Françoise Sullivan, la femme de tous les courants artistiques. Un texte de Caroline Montpetit, paru le 10 juin 2023 dans Le Devoir. Elle a traversé le siècle en dansant, en déambulant, en créant des installations, en peignant. Elle a dansé dans la neige, marché au milieu des raffineries de pétrole, appris la soudure et construit des sculptures d'art public. À l'aube de ses 100 ans, l'artiste Françoise Sullivan, membre du groupe des automatistes, semble toujours aussi convaincue de la puissance de l'art. Et chaque jour, dans son atelier, elle peint. La vie peut être belle. La vie est belle quoi qu'il en soit, dit-elle simplement, toute fraîche, légère, joyeuse, dans sa robe noire, au moment du lancement de l'exposition « Une ligne imaginaire » à la Galerie de l'UQAM sur ses travaux des années 1970. « Je peins, je vois des amis, mes enfants s'occupent de moi et je m'occupe d'eux », résume-t-elle. Elle a aimé peindre dès l'enfance. « J'ai toujours été dans l'art », dit-elle. Mais c'est par un texte sur la danse intitulé « La danse et l'espoir » qu'elle a signé en 1948, le manifeste Refus global, avec le groupe d'artistes automatistes dirigé par Paul-Émile Bordua. À l'époque, Françoise Sullivan étudie la danse à New York, au même moment que Louise Renault et Mimi Lalonde, l'épouse de Jean Gascon. J'étais avant-gardiste. Je voulais faire en danse l'équivalent de la peinture, se souvient-elle en entrevue. À New York, elle côtoie le New Dance Group avec Mary Anthony. Elle va à Harlem écouter du jazz. J'allais explorer un peu partout et j'ai rencontré la danseuse Franziska Boas. Franziska Boas allie à l'époque production artistique et activisme social. Elle est la fille de Franz Boas, considéré comme le père de l'anthropologie moderne américaine. C'est dans le studio new-yorkais de Franziska Boas que Françoise Sullivan organise en 1946 l'exposition The Bordua's Group, l'une des quatre expositions décisives qui devait faire connaître les artistes automatistes et définir l'esthétique automatiste en peinture, selon l'historienne de l'art Rosemary Harbour. Françoise Sullivan n'y participe pas comme peintre, mais en est l'organisatrice. Lorsque Françoise Sullivan parle du refus global, c'est d'un mouvement entier et non seulement d'un document qu'elle parle. Elle insiste là-dessus. On a construit ce mouvement-là par notre pensée. Je n'ai pas décidé soudainement de signer le manifeste. On a fait le mouvement. On l'a construit par notre pensée, par ce qu'on lisait, par ce qu'on disait, dit-elle. Il faut dire aussi que la peinture, considérée alors comme la forme ultime de l'art, est à cette époque surtout réservée aux hommes, dans le groupe automatiste, où seul Marcel Ferron s'y consacre à temps plein comme femme. Ils agissaient un peu comme ça. Ils étaient fiers de leur importance. Mais selon moi, ça pouvait être égal, la danse et la peinture. Les ballets russes, ce qu'ils faisaient, c'était très avancé, dit-elle. Vous écoutez Françoise Sullivan, la femme de tous les courants artistiques. Un texte de Caroline Montpetit, paru le 10 juin 2023 dans Le Devoir. Proche de son moment historique. Aujourd'hui, toute l'œuvre de Françoise Sullivan est traversée d'une réflexion sur l'art. Elle a été à l'avant-garde des grands courants artistiques du dernier siècle, de l'automatisme à l'art conceptuel, de l'arte povera italien au retour à la peinture. Et dans ce qu'elle fait, la pensée n'est jamais loin de la forme. C'était déjà présent dans son texte, la danse et l'espoir, inscrit dans « Refus global ». L'art fleurit uniquement sur les problèmes intéressants l'époque, toujours dirigés vers l'inconnu. « D'où le merveilleux », écrivait-elle en 1948. Françoise Sullivan est très proche de son moment historique, de notre moment, dit l'historienne de l'art Louise Derry, qui a écrit plusieurs ouvrages et produit plusieurs expositions sur l'œuvre de l'artiste. Dans son grand atelier de Griffintown, où elle a peint durant 40 ans, avant de devoir le quitter à regret, Françoise Sullivan continuait de réaliser des chorégraphies. C'était l'atelier romantique, tout blanc, se souvient-elle. Aujourd'hui, elle constate que la danse est très vivante au Québec, tandis que dans le milieu de la peinture, c'est pas très fort en ce moment, ajoute-t-elle. Il lui arrive encore, confie l'artiste, de danser dans sa cuisine, en écoutant du jazz. Pour Françoise Sullivan, l'art a été un destin plutôt qu'une carrière, même si elle s'est distinguée tout au long de sa vie. Lorsqu'elle décide de s'inscrire à l'École des beaux-arts, ses parents n'y voient pas d'objection, estimant que la carrière qui l'attend est surtout une vie de mère de famille. « J'ai été mère de famille », lance-t-elle d'ailleurs en riant. « C'est quand j'ai signé le manifeste Refus global que ça a été difficile, avec sa famille », confie-t-elle. Pourtant, elle adore se rappeler les poèmes de Pierre de Ronsard que son père lui déclamait lorsqu'elle était encore toute petite et qu'elle lui tenait la main lors de leurs vacances à Bellevue. Plus tard, avec le groupe des automatistes, elle s'initie à Rimbaud et à Baudelaire. C'est d'abord avec Pierre Gauvreau qu'elle se lie d'amitié, alors qu'elle fréquente, comme lui, l'École des beaux-arts. Remarqué par Paul-Émile Bourdua, ce dernier invite son groupe chez son maître pour y engager des discussions. Françoise connaissait Pierre Gauvreau et Bruno Cormier depuis l'âge de 11 ans, rappelle Patricia Smart, autrice du livre « Les femmes du refus global ». Danser et se voir danser. À l'époque du mouvement automatiste, Françoise Sullivan imagine des chorégraphies ancrées dans le territoire à interpréter à l'extérieur. En 1948, elle exécute « Danse dans la neige », illustration en une, devant le Mont-Saint-Hilaire. Jean-Paul Riopel la filme, mais le film s'est perdu, comme d'ailleurs le film de la chorégraphie de l'été précédent que Françoise Sullivan avait conçu et dansé aux Escoumins devant la caméra 16 mm de sa mère. Non seulement elle exécutait sa performance, mais elle savait comment cela devait sortir dans l'image. Elle est pionnière de la danse contemporaine, mais elle est aussi pionnière dans la manière de la montrer, poursuit Louise Derry. En 2007, Françoise Sullivan reproduira les quatre chorégraphies qu'elle avait pensées pour les quatre saisons et les fera exécuter par quatre danseuses d'âges différents. La condition de femme de Françoise Sullivan, mariée au peintre Patterson Ewan et mère de quatre enfants, a déterminé à une certaine époque ses choix d'artiste. C'est ce qu'elle a expliqué à Patricia Smart quand celle-ci l'a rencontrée pour la rédaction de son livre « Les femmes du refus global ». Ce n'était pas possible de continuer à danser, parce que quand on danse, il faut s'absenter pour les cours, les répétitions, les émissions à la télévision, disait-elle. C'est alors que j'ai arrêté. Au début, je m'en souviens, j'avais tout mon temps. Je jouais à la femme d'intérieur. Mais au bout de quelque temps, j'ai eu l'impression d'avoir perdu mon identité et je me suis affolée. J'ai senti la nécessité de revenir à un travail, mais ça devait être un travail qui ne m'éloignait pas de la maison et qui me laisserait libre de décider de l'emploi de mon temps. Je ne voulais pas me remettre à peindre, parce que mon mari était peintre et que cet art lui appartenait. Alors, je me suis mise à faire de la sculpture. Françoise Sullivan suit alors des cours de soudure. J'étais la seule femme parmi des ouvriers, se souvient-elle en entrevue. Ensuite, elle poursuit cette formation aux beaux-arts. Dans son garage, elle conçoit des sculptures qui évoquent le mouvement, dont Chute concentrique, 1962, qui lui vaut le prix du Québec et aussi, notamment, Kalu Kale, commandé pour Expo 67. Le titre inspiré du livre « Alice au pays des merveilles » de Lewis Carroll exprime la joie. Cette joie, elle semble encore émaner de Françoise Sullivan, malgré la peine vécue au moment du décès d'un de ses fils en 2019. Lorsqu'on lui demande comment elle se sent de devenir centenaire, elle raconte tout simplement l'excitation d'entrer dans un nouveau siècle, sourire aux lèvres. Françoise Sullivan est confiante, résume Patricia Smart. Elle ose faire des choses que personne d'autre n'aurait faites, mais toujours avec son petit sens de l'humour, toujours avec son petit sourire. L'inspiration, toujours, la suit. C'était Françoise Sullivan, la femme de tous les courants artistiques. Un texte de Caroline Montpetit, paru le 10 juin 2023 dans Le Devoir.
Faire le bien à vélo, un texte de Maxime Bilodeau, paru dans le magazine Vélomag d'avril 2022. Votre bécane est plus qu'un objet de performance. Elle peut également servir à transformer le monde, comme le démontrent ces trois exemples d'initiatives de partout au Québec. Nourrir Québec. Nourrir ensemble, lutte contre l'insécurité alimentaire à Québec, un tour de roue à la fois. La poignée de bénévoles de l'organisme à but non lucratif, OBNL, livre chaque mois, dans les quartiers centraux, une centaine de paniers alimentaires, des paniers d'épicerie, en somme. Pour tracter leurs remorques remplies de victuailles dans les côtes qui séparent la haute ville de la basse ville, ces âmes charitables comptent sur des vélos allongés à assistance électrique, des Big Easy de Surly. L'équivalent d'une mini-fourgonnette sur deux roues. Le vélo cargo s'accorde à merveille avec notre mission. Il n'émet pas de gaz à effet de serre, n'importe qui peut le piloter, et son coût d'exploitation est minime, explique Ariane Jacques-Côté, fondatrice et coordonnatrice de Nourrir Ensemble. C'est aussi un moyen de livraison diablement efficace, peut-être même plus que la bagnole. Nous sommes sur la route presque tous les jours, et ce, 12 mois par année. Peu importe les conditions extérieures, nous sommes en mesure d'effectuer nos livraisons, s'enorgueillit-elle. Depuis ses premières livraisons au début de 2021, Nourrir Ensemble s'est rapidement imposé comme un maillon essentiel dans la chaîne alimentaire de Québec. Divers organismes, tels le comptoir d'aide alimentaire de Saint-Charles, le Centre des femmes de la Basse-Ville et la Maison Mère Malais, font appel à ses services. L'OBNL achemine les aliments qu'on lui confie à des clientèles qui ne peuvent se déplacer. Des familles immigrantes pour qui la maîtrise de la langue est un obstacle, jusqu'aux personnes à mobilité réduite, en passant par les individus aux prises avec des troubles de santé mentale. Nous nous faisons connaître par le bouche-à-oreille, ce qui prouve notre pertinence. Le transport a toujours été un obstacle pour le milieu communautaire à Québec, même avant la pandémie de COVID-19, qui est venue l'exacerber, estime Ariane Jacques-Côté. Par la bande, La Limouloise se réjouit de faire évoluer les mentalités sur la place du vélo dans cette ville réputée hostile aux cyclistes. Nos bénévoles nous le disent. Une fois la réaction initiale de surprise passée, les badauds sont fascinés par notre présence. Pour suivre les activités de l'organisme et pourquoi pas vous impliquer, rendez-vous sur la page Facebook de Nourrir Ensemble. Livraison communautaire. Jeanne Paré et Johnny Alberto sont des cyclistes solidaires avant d'être des employés de Cyclistes solidaires. La nuance est importante. Ces Montréalais savent mieux que quiconque comment cette mobilisation citoyenne devenue OBNL sème le bien partout dans son sillage, depuis sa fondation au début de la pandémie de COVID-19. Rappelez-vous, la peur face au nouveau coronavirus, la société mise sur pause, le lavage systématique de l'épicerie. C'est justement pour assurer la sécurité alimentaire dans la métropole qu'est né Cyclistes solidaires. 2 ans plus tard, la mission de l'organisme s'est étendue à d'autres besoins de livraison communautaire, comme des trousses de bricolage destinées aux enfants confinés. Surtout, le désir de s'impliquer ne fléchit pas. Notre plateforme compte au-delà de 800 inscrits, même si certains sont plus actifs que d'autres, révèle Johnny Alberto, coordonnateur de quartier pour Cyclistes solidaires. Les livraisons se font souvent en duo, enchaîne sa collègue Jeanne Paré, co-coordonnatrice de soutien. Les bénévoles utilisent leur propre vélo, parfois avec une remorque pour les grosses commandes. Au-delà de sa noble mission, Cyclistes solidaires contribuent à retricoter un tissu social mis à mal par des confinements répétés, un effet pas si secondaire que ça, qui serait dû à la nature même de la bicyclette. On ne connaît jamais mieux un quartier que sur 2 roues. Pédaler permet d'en découvrir les habitants, leurs besoins, leurs difficultés, souligne Jeanne Paré. D'une course à l'autre, les bénévoles apprennent le nom de certains usagers réguliers, premier pas vers une relation humaine significative. Je me souviens d'une dame dans Rosemont-la-Petite-Patrie chez qui je suis allée livrer un panier alimentaire. Au détour de la conversation, elle finit par me confier que je suis la seule personne avec qui elle a discuté cette semaine-là, raconte Jeanne Paré, encore émue par cette histoire. Les cas de santé mentale sont tout particulièrement poignants en raison des mesures de délestage dans les hôpitaux, admet pour sa part Johnny Alberto. Cycliste solidaire, qui est toujours à la recherche de bénévoles, lancera sa saison estivale en avril prochain. Et c'est tellement facile de s'inscrire pour devenir bénévole. Il suffit de cliquer sur le code QR disponible sur la page Facebook de Cyclistes solidaires. En échapper avec ses souvenirs. Filer les cheveux au vent sur la promenade du vieux quai de cette île est un bonheur indicible de la vie auquel plusieurs, malheureusement, ne peuvent goûter. Prenez les aînés souffrant d'Alzheimer. L'infâme maladie les condamne à un inévitable déclin cognitif, synonyme de perte d'autonomie. C'est pour leur redonner un peu de qualité de vie que la société Alzheimer Côte-Nord offre depuis l'été dernier des balades en vélo-cargo à assistance électrique. L'achat du triporteur, fait sur mesure par une entreprise de Québec, Gros Vélo, a été rendu possible par un don de 8 000 $ du Club Richelieu local. Nous l'avons d'ailleurs nommé le Vélo Richelieu afin de souligner cet acte de générosité, mentionne Julie Depère, directrice générale de l'organisme de bienfaisance. Grâce à lui, Nos usagers qui vivent dans des résidences privées peuvent sortir prendre l'air et évoquer des souvenirs dans un cadre sécuritaire, ce qui est bénéfique d'un point de vue thérapeutique. Les personnes âgées sont assises à l'avant du vélo, à côté de leur accompagnateur, tandis qu'un conducteur installé à l'arrière s'occupe de piloter. Les sorties sont courtes, quelques kilomètres avalés tout au plus à 15 km/h, la vitesse maximale autorisée par l'assistance électrique. Il faut dire que le vélo Richelieu est un mastodonte. Il fait osciller la balance entre 55 et 60 kilos, selon les composantes et accessoires choisis. Fabriqué à partir de robustes tubes carrés industriels, il supporte jusqu'à 270 kg de charge. Son moteur au pédalier d'une puissance de 1000 watts et sa batterie de 816 watts-heure, qui donne une autonomie à vide d'environ 80 km, facilite néanmoins la vie du cycliste. La cerise sur le sundae, la conception tient compte des recommandations d'une ergothérapeute du CIUS de la capitale nationale. On parle de menus détails, comme l'angle de 76 degrés du dossier, la largeur de la banquette ou le type de ceinture appropriée. Depuis sa récente mise en service, le vélo Richelieu n'est sorti qu'à quelques reprises dans les rues de cette île, une situation qui ne devrait pas se répéter en 2022. Nous souhaitons recruter davantage de conducteurs bénévoles en vue de bonifier l'offre de services, voire étendre le concept à nos autres points de service sur la Côte-Nord, à Port-Cartier et à Baie-Comeau, par exemple. Chose certaine, il ne prendra pas la poussière, jure Julie Depère. Vous voulez pédaler et améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie? Ça tombe bien. La Société Alzheimer Côte-Nord recherche des bénévoles. C'était « Faire le bien à vélo », un texte de Maxime Bilodeau paru dans le magazine Vélomag d'avril 2022.